Beaucoup affirment que la science a rendu inutile l'existence d'un créateur. Après tout, disent-ils, nous savons désormais que l'univers a vu le jour lors d'une sorte de Big Bang et qu'il s'étend dans toutes les directions que nous pouvons observer. Nous comprenons la structure de la matière, ses comportements et les lois qui la régissent. Plus près de nous, nous comprenons la vie elle-même, disent-ils. Elle a simplement évolué à partir de matières inanimées, grâce à des combinaisons aléatoires de substances chimiques qui ont perduré au fil du temps, car elles étaient d'une certaine manière mieux adaptées à la survie et à la reproduction, jusqu'à ce que des milliards d'années plus tard, nous ayons un monde peuplé de baleines, de girafes, d'aigles à tête blanche, etc. Pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, ces affirmations s'effondrent. Car dans tous les aspects du monde, si l'on est prêt à rechercher et à accepter les preuves, on voit l'empreinte d'un Dieu créateur. Rejoignez-nous pour cet épisode du Monde Demain, où nous examinerons comment la science révèle l'empreinte de Dieu. Bienvenue au Monde Demain, de la part de toute l'équipe du studio du Monde Demain et de notre sponsor l'Église du Dieu vivant. Dans cette émission, notre objectif est de vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, cette affirmation revêt un sens littéral. Car notre but est de vous aider à comprendre le monde entier, un peu mieux, en suivant les preuves laissées dans ce monde-là, où elles mènent logiquement. Et cette logique aboutit au Dieu créateur puissant et aimant de la Bible. Trop de gens pensent que croire en Dieu relève d'une foi aveugle, alors qu'en réalité, toutes les preuves qui nous entourent témoignent d'une intelligence divine. Le Dieu réel, preuves et promesses, vous fera découvrir une grande partie de ces preuves. Restez attentifs aux informations nécessaires pour demander votre exemplaire gratuit. Le roi David d'Israël composa bon nombre des psaumes de la Bible dans lesquels s'exprime une idée simple et éloquente. L'insensé dit dans son cœur « Il n'y a point de Dieu ». Pourtant, nombreux sont aujourd'hui les scientifiques qui qualifieraient le roi David d'insensé. Ils scrutent le cosmos autour d'eux et étudient la diversité de la vie sur Terre sans y trouver la moindre trace de Dieu. Ils observent la nature et n'y découvrent rien qui puisse la transcender. C'est sans doute le biologiste, évolutionniste et athée convaincu Richard Dawkins qui a le mieux exprimé cette idéologie lorsqu'il a écrit « L'univers que nous observons a exactement les propriétés auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a à l'origine ni plan, ni finalité, ni mal, ni bien, rien que de l'indifférence aveugle et sans pitié. » En d'autres termes, selon Dawkins, l'univers et tout ce qu'il contient se présentent exactement comme on pourrait s'y attendre s'il n'y avait pas de Dieu. Alors, qui a raison, M. Dawkins ou le roi David ? Sans aucun doute, c'est le roi David qui a raison. Trop de physiciens, de cosmologistes et de biologistes refusent de voir les preuves qui s'offrent à leurs yeux, refusent de reconnaître l'empreinte de Dieu qui parsème les domaines mêmes qu'ils étudient. Ils se disent déterminés à suivre les preuves, mais lorsque celles-ci pointent dans une direction qui leur déplaît, ils détournent le regard. Mes amis, nous n'avons pas à répéter leurs erreurs. L'empreinte de Dieu est omniprésente dans toute sa création et notre ressource gratuite d'aujourd'hui passe en revue 7 catégories différentes de preuves où son empreinte est manifeste. Dans l'émission d'aujourd'hui, cependant, nous n'avons le temps d'examiner que 3 catégories. Et pour ce faire, nous nous inspirerons en partie du roi David lui-même. Par exemple, dans le psaume 19, David écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains ». En d'autres termes, David contempla le cosmos qui nous entoure et y vit l'empreinte de Dieu. Il reconnut la vérité révélée dès le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ainsi, sans télescope, sans analyse spectrale, ni mesure des micro-ondes cosmiques, David pouvait tout de même contempler l'univers en haut et en conclure qu'il regardait l'empreinte du Dieu qui créa tout cela. Et la science confirme la Bible, car les preuves indiquent bel et bien un univers qui n'a pas toujours existé. Il y eut vraiment un commencement à toute chose. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang est tellement considérée comme acquise que beaucoup ne se rendent pas compte que lorsque les preuves de son existence ont été découvertes pour la première fois, les scientifiques s'y sont vigoureusement opposés car elles ressemblaient trop au récit de la création divine dans le livre de la Genèse. Par exemple, lorsque George Lemaître a pour la première fois suggéré que la relativité impliquait que l'univers eut un commencement à un moment donné, Albert Einstein lui répondit que « cela évoque trop l'idée théologique de la création ». Dans la prestigieuse revue scientifique Nature, l'astrophysicien Sir Arthur Eddington déclara à propos de cette idée « d'un point de vue philosophique, la notion d'un commencement de l'ordre actuel de la nature me répugne ». L'astronome et cosmologiste Fred Hoyle se moqua de l'idée d'un commencement de l'univers, affirmant que la théorie du Big Bang était une forme de fondamentalisme religieux. En réalité, c'est lui qui inventa le terme Big Bang pour ridiculiser cette idée, affirmant que la raison pour laquelle les scientifiques aiment le Big Bang, c'est parce qu'ils sont influencés par le livre de la Genèse. C'est peut-être une déclaration du célèbre physicien Stephen Hawking qui résume le mieux pourquoi ils étaient tous déconcertés. Comme le rapportait le magazine New Scientist en 2012, il avait déclaré « un point de départ de la création représente l'échec de la science. Il faudrait alors se tourner vers la religion et la main de Dieu ». Eh bien, de nombreuses années se sont écoulées et le verdict est tombé. Les scientifiques, qui rejetaient l'idée d'un commencement de l'univers parce qu'elle ressemblait trop au récit biblique, avaient tort. Et l'hypothèse d'un univers qui a vu le jour à un moment donné est désormais considérée comme la théorie dominante en cosmologie. Comme l'écrivait en 2007 l'éminent physicien Alexander Winnicken, la preuve étant désormais établie, les cosmologistes ne peuvent plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel dans le passé. Il n'y a pas d'échappatoire, ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Pourquoi tant de scientifiques considèrent-ils cela comme un problème? Réfléchissez-y. Si l'univers a eu un commencement, qu'est-ce qui a provoqué ce commencement? Après tout, la science est avant tout l'étude des causes et des effets. Si l'univers lui-même était l'effet, quelle en était alors la cause? Et lorsque les scientifiques parlent de l'univers, cela désigne l'ensemble du monde naturel, toute la matière, toute l'énergie physique, tout l'espace est ce qui révèle du temps. La cause de leur commencement devrait donc se situer au-delà de la matière, au-delà de l'énergie physique, au-delà de l'espace et au-delà du temps. Autrement dit, si tout ce qui est naturel a eu un commencement, cela renvoie à une cause qui est surnaturelle. En d'autres termes, le commencement de l'univers est une immense empreinte digitale qui désigne Dieu. Mais nous pouvons aller plus loin. Qu'est-ce qui rend la science et l'étude de ce vaste univers possible? Non seulement le fait que l'univers existe, mais aussi qu'il obéit à des lois et qu'il est ordonné. Appeler le commencement de l'univers le Big Bang donne l'impression erronée qu'il s'agissait d'une explosion de hasard et de chaos, mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Il suffit de penser à l'ensemble des équations et des lois mathématiques qui garantissent que tout dans la création fonctionne de manière ordonnée et structurée. La manière dont l'univers s'étend, la façon dont l'énergie, la matière et les forces fondamentales interagissent sont strictement régies par des lois mathématiques précises, telles que les lois du mouvement de Newton, les équations de Maxwell concernant la lumière et l'électromagnétisme, les équations du champ d'Einstein, le principe d'incertitude de Heisenberg et l'équation de Schrödinger. De nombreuses lois fondamentales régissent notre réalité et la maintiennent ordonnée et fonctionnelle. Et pourtant, cet ordre et cette structure vont bien au-delà. Bien qu'il subsiste des mystères que nous ne comprenons pas encore pleinement, tels que la matière noire et l'énergie noire théorique, le modèle standard de la physique moderne nous apprend que tout ce que nous voyons dans l'univers est constitué de seulement 17 éléments fondamentaux. 12 particules élémentaires de matière, 4 particules vectrices de force et une particule qui confère une masse aux autres. Imaginez toute la vaste diversité que nous observons ici sur Terre, sans parler de celle qui règne dans l'ensemble du cosmos. Tout cela est construit à partir d'un ensemble de seulement 17 particules élémentaires invisibles, obéissant à des lois qui rendent l'univers tout entier possible. Comment une personne sensée pourrait-elle conclure que ce jeu de construction, étonnamment polyvalent, capable de bâtir l'univers, est apparu par hasard, sans planification ni intelligence? Et pourtant, cet ordre est encore plus profond, car l'univers est plus coordonné, il est régi par des lois. Ces lois font l'objet d'un ajustement extrême pour rendre possible une vie complexe comme la nôtre. Par exemple, la force de la gravité, les forces relatives des charges et des masses des particules qui composent l'atome, protons, neutrons et électrons, la constante de structure fine alpha, l'énergie de liaison entre le proton et le neutron dans un deutéron, le niveau de résonance du carbone, la constante cosmologique, le taux de fusion nucléaire dans les étoiles. Tous ces facteurs et bien d'autres encore exigeaient des valeurs si précises que si certaines d'entre elles avaient varié, ne serait-ce que d'une fraction de pourcentage, les étoiles ne se seraient pas formées, l'univers ne se serait pas étendu et la vie humaine n'aurait pas pu exister. Comme l'a écrit Stephen Hawking dans son ouvrage révolutionnaire « Une brève histoire du temps », le fait remarquable est que la valeur de ces nombres semble avoir été finement ajustée pour rendre possible le développement de la vie. Ou comme l'a écrit l'astronome et cosmologiste Fred Hoyle, les chiffres que l'on tire de ces faits me semblent si accablants qu'ils rendent cette conclusion pratiquement incontestable. Une fois encore, la science pointe vers un créateur divin, un dieu dont le super-intellect et l'esprit planificateur existaient bel et bien avant l'univers. La Bible déclare à ce sujet dans Ésaïe chapitre 33 verset 22 « L'Éternel est notre législateur » et dans Jérémie 33 verset 25 « Dieu déclare qu'il a établi les lois des cieux et de la terre. » Et la Bible dit aussi qu'il n'a pas simplement créé un univers ordonné et régi par des lois, mais un univers destiné à être habité par la vie. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 45 et au verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle soit habitée, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Penchons-nous maintenant sur un autre passage écrit par le roi David, qui nous emmène dans une direction tout à fait différente dans notre quête de l'empreinte de Dieu. Dans le psaume 139, au verset 14, nous lisons « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Oui, David vit l'empreinte de Dieu à l'échelle cosmique la plus grandiose, mais il la vit également à l'échelle la plus petite et la plus intime, dans son propre corps. Et cette empreinte est présente dans le vôtre aussi. La vie elle-même porte l'empreinte de Dieu. Prenons par exemple la plus petite unité de vie, la cellule. En apprenant à scruter le monde microscopique de la cellule vivante, les biologistes ont découvert un univers absolument fascinant, doté d'une structure si intelligente dans son vaste éventail de rouages et de mécanismes internes qu'il fait pâlir d'envie toutes les technologies humaines jamais inventées. Au sein de ce minuscule univers, microscopique et invisible, se trouvent d'étonnantes machines moléculaires, des pompes, des passerelles, des systèmes de transport et des dispositifs de gestion des déchets, des systèmes de communication, une architecture interactive, des mécanismes de reconnaissance chimique et des équipements d'entretien de l'environnement. Et au cœur de tout cela, l'ADN, un système de stockage d'informations aux capacités immenses. Richard Dawkins déclara dans son ouvrage phare « Il y a assez de capacités d'informations dans une seule cellule humaine pour stocker 3 ou 4 fois les 30 volumes de l'Encyclopédia Britannica. » L'ADN, les protéines et les autres appareils moléculaires qui le traitent, le dupliquent, le réparent et l'entretiennent représentent une nanotechnologie d'une complexité et d'une merveille presque inimaginables que, malgré tous nos efforts, nous ne sommes toujours pas capables de reproduire nous-mêmes. Dans un article publié en 2012, George Church, éminent généticien moléculaire, a déclaré sans embâge « L'ADN est un des moyens d'information les plus stables et les plus denses que l'on connaisse. » Moins d'un an plus tard, la revue Nature rapportait qu'une équipe de scientifiques avait démontré cette capacité de l'ADN en y encodant l'intégralité des 154 sonnets de Shakespeare, l'article scientifique original de Francis Crick et James Watson sur la structure de l'ADN, une photographie en couleur de l'Institut européen de bioinformatique en Angleterre et un extrait audio du célèbre discours « Je fais un rêve » de Martin Luther King, le tout dans un minuscule fragment d'ADN. Pas sur un disque dur, pas sur une clé USB, dans un minuscule fragment d'ADN. Ils ont ensuite envoyé l'ADN dans un flacon sans emballage particulier des États-Unis vers l'Allemagne, où des collègues ont réussi à décoder le contenu pour le retranscrire dans ses formats d'origine, texte, images et audio, avec une précision de 100%. La complexité du mécanisme cellulaire et la capacité de l'ADN à stocker de l'information doivent être considérées comme une empreinte révélatrice de la présence d'un grand concepteur à l'origine de tout cela. Pourtant, la plupart des scientifiques continuent de détourner le regard des conclusions évidentes qui découlent des preuves, quel que soit l'effort qu'ils doivent fournir pour se convaincre que l'évidence n'est pas si évidente. Par exemple, l'évolutionniste Richard Dawkins écrivit dans son ouvrage « La biologie est l'étude d'objets complexes qui donnent l'apparence d'avoir été conçus dans un but précis ». De même, Francis Crick, co-découvreur de l'étonnante structure de la molécule d'ADN, écrivit que les biologistes doivent constamment garder à l'esprit que ce qu'ils voient n'a pas été conçu, mais a plutôt évolué. Quels aveux fascinants ! Chacun d'eux affirme que les biologistes passent leur temps à observer attentivement l'empreinte du concepteur, mais qu'ils doivent pourtant, pour une raison quelconque, s'efforcer de ne pas conclure à l'existence d'un concepteur. M. Dawkins affirma que la biologie est l'étude de choses complexes qui semblent avoir été conçues dans un but précis. M. Crick affirma que les preuves d'une conception sont si solides que les biologistes doivent se forcer à ne pas les accepter et à croire plutôt en l'évolution. Il semble que de nombreux scientifiques aient oublié le principe du canard. Si ça ressemble à un canard, si ça cancane comme un canard et si ça marche comme un canard, c'est que c'est probablement un canard. Plus sérieusement, ces exemples d'ignorance volontaire et délibérément entretenue devraient nous rappeler un avertissement de l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, à partir du verset 18, il écrivit ce qui suit. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vraiment, il n'y a aucune excuse. C'est une pure folie d'ignorer les preuves de l'existence de Dieu et de choisir de croire qu'un système aussi complexe et d'une intelligence aussi supérieure comme ceux que l'on trouve dans nos propres cellules n'ont pas été conçus. Chaque cellule lisant les programmes encodés dans notre ADN, comme 600 000 milliards d'ordinateurs lisaient 100 000 milliards de disques durs à chaque seconde de chaque jour de notre vie, nos propres vies constituent alors une preuve époustouflante de l'existence de notre Créateur. L'empreinte de notre Créateur est là. Partout dans la vie, partout dans nos propres corps, jusqu'aux structures microscopiques de notre complexe machinerie cellulaire. La science démontre que la déclaration du roi David était bien plus vraie qu'il n'aurait jamais pu le comprendre. Nous devrions tous louer Dieu, car nous avons, en effet, été créés de manière merveilleuse et extraordinaire. Il y a franchement bien d'autres aspects de l'empreinte de Dieu que l'on peut découvrir si l'on cherche un peu, même au-delà du domaine de la science. Par exemple, il y a les preuves des prophéties accomplies, ainsi que celles des prières exaucées. La ressource gratuite d'aujourd'hui rassemblera pour vous des preuves dans 7 catégories différentes afin de vous donner l'occasion de les examiner par vous-même. Mais comme notre thème était en quelque sorte scientifique aujourd'hui, permettez-moi de vous proposer une expérience. Dans la dernière partie, nous avons souligné que vous, dans votre corps, dans votre vie, vous portez en vous l'empreinte de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Dieu créa bel et bien l'univers pour permettre la vie humaine, et il conçut la vie humaine, y compris la vôtre, dans un but grandiose et merveilleux. et vous portez son empreinte en vous parce qu'il est en train de façonner quelque chose à partir de vous. Il s'investit en vous et il aspire à vous offrir la vie éternelle et une destinée plus grande que tout ce que vous n'avez jamais pu imaginer. Alors pour planter le décor, Dieu ne s'est pas contenté de créer la vie. Il a aussi conçu un mode de vie qui vous aidera à atteindre les objectifs qu'il a fixés pour vous. Et en tant que créateur de toute vie, Dieu sait comment la vie doit être vécue. Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile, selon Jean, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pour ceux qui aspirent à cette vie, qui souhaitent que Dieu soit près d'eux, guidant leur vie et leurs pas, il explique très clairement comment y parvenir dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Voici l'expérience que j'ai en tête. « Approchez-vous de Dieu. Voyez s'il s'approche de vous. Ouvrez sa parole et mettez-la en pratique. Cherchez-le et voyez ce que vous y trouverez. Mais vous devrez le chercher de tout votre cœur. » Il nous le dit lui-même dans sa parole en disant « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Franchement, la plupart des gens n'ont pas le courage d'essayer. Beaucoup aiment croire en Dieu, ils aiment voir son empreinte partout, mais ils ne veulent pas admettre que cette empreinte est là pour une raison et Dieu attend de ces gens qu'ils agissent en conséquence. Si vous percevez l'empreinte de Dieu autour de vous et que vous souhaitez à la fois la discerner davantage et saisir le prix pour lequel il vous a aussi saisi, alors vous avez besoin de la ressource gratuite d'aujourd'hui, le Dieu réel, preuves et promesses. Si vous voulez vraiment suivre les preuves, alors suivez-les jusqu'au bout.